Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour en ondes, chers auditeurs. Je vais donc pas traiter de la décision et des conséquences du jugement à la Cour internationale de justice. On avait déjà traité du sujet les semaines précédentes pour parler du fait qu'il y avait un procès, mais là une décision a été rendue, donc on va continuer sur ce sujet-là. Comme je disais, comme on a pu expliquer lors de précédentes chroniques, le 29 décembre, l'Afrique du Sud engageait une procédure contre Israël devant la Cour internationale de justice. Pour ceux qui ne savent pas, la Cour internationale de justice, c'est le principal organe judiciaire de l'ONU. Dans le cadre de... L'Afrique du Sud engagea donc cette procédure dans le cadre d'allégations de violation par Israël de ses obligations au titre de convention contre le génocide à l'égard des Palestiniens dans la bande de Gaza. Les audiences de ce procès public ont été tenues au Palais de la Paix à La Haye des jeudi 11 au vendredi 12 janvier. Au cours de ce procès, plusieurs prises de parole ont été prises, notamment de la part de l'Afrique du Sud, que je vais citer là. L'Afrique du Sud, qui, comme je le disais ici, implique une convention pour la prévention du crime de génocide dans la bande de Gaza. Il y a eu plusieurs déclarations comme celle de Adila Hassim, avocate de l'Afrique du Sud, qui disait c'était le 11 janvier, elle se disait se tenir devant nous aujourd'hui pendant que 23 210 Palestiniens étaient tués par les forces israéliennes au cours des attaques survenues ces trois derniers mois. Elle rappelait que c'était 70% de ces victimes seraient des femmes et des enfants. L'avocate rappelait aussi que les Gazaouis sont soumis à des bombardements incessants où qu'ils aillent et sont tués dans leurs maisons, dans les lieux où ils cherchent refuge, comme des hôpitaux, des écoles, des mosquées ou des églises. À la suite de ce procès, comme je disais, qui a tenu le 11 et le 12 janvier, le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a rendu une décision au titre de la Convention contre le génocide. L'arrêt rendu par la CIJ a ordonné 6 mesures conservatoires, dont le fait qu'Israël doit s'abstenir de commettre des actes entrant dans le champ d'application de la Convention sur le génocide, prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide et prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre la fourniture de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Et surtout, la Cour a ordonné à Israël de conserver des preuves liées à l'accusation de génocide et de présenter un rapport à la Cour d'ici un mois sur toutes les mesures prises conformément à cette ordonnance. Donc la Cour, cependant, ne s'est pas prononcée concernant le fait que Israël commette ou non un génocide. Elle a ordonné de prévenir ou punir les actions qui mènent à un génocide, mais n'a pas clairement dit que les attaques qui survenaient actuellement à Gaza composaient réellement un génocide. Ainsi, malgré ces interpellations et ces consignes à l'égard d'Israël, la Cour de justice n'évoqua pas la question du cessez-le-feu. Malgré cela, à la suite de ce verdict, l'Afrique du Sud a salué une victoire décisive pour l'état de droit international. Bien évidemment, quant à lui, Netanyahou a fait des déclarations après cette décision. Il n'a pas tardé à réagir en jugeant scandaleuses les accusations de génocide à Gaza. Il déclara que c'était des tentatives ignobles de refuser à Israël le droit fondamental de se défendre et une discrimination flagrante contre l'État juif. Et elle a rejeté, il déclara qu'elle a rejeté à juste titre le fait qu'il y avait un génocide qui se déroulait en ce moment à Gaza. Et il a affirmé que le gouvernement israélien continuerait à faire ce qui est nécessaire pour défendre leur pays et leur peuple. Ainsi, nous voyons bien que malgré les déclarations, l'armée israélienne continuera les actions qu'elle mène en ce moment et les bombardements, comme on a pu le dire tout à l'heure, lors du jugement, c'était 23 210 personnes qui ont été tuées. Et aujourd'hui, il y a 26 422 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza. Et parmi ces 26 422 morts, ça serait 70% de femmes et d'enfants qui auraient été tués dans ces différents bombardements. Comme nous avions pu l'évoquer, ce procès d'ampleur internationale nous permet donc d'analyser les limites du droit international, car la Cour internationale de justice n'a aucun moyen de faire appliquer ses règles et ses décisions de justice en Israël. Elle n'a pas de pouvoir d'application, mais seulement un pouvoir de déclaration. Ainsi, les grandes instances de droit international sont impuissantes face au fait de mettre un terme à ces atrocités, ce qui prouve la crise et les limites du droit international. Je vais laisser la parole à Noémie sur ce sujet.
Oui, justement, là, la secrétaire générale d'Amnesty International, une organisation internationale bien connue, là, Agnès Kayamar, désolée si je prononce un petit peu mal le nom, a mis de l'avant justement que, bien que la décision là, elle soit pas, est pas force de loi ou d'arrêt comme ce le serait par exemple par un arrêt de la Cour suprême au Canada, ça montre vraiment que la Cour internationale de justice envoie un message clair que le monde va pas regarder en silence là, Israël poursuit sa campagne militaire visant à décimer la population de la bande de Gaza et déchaîner la mort, le chaos et la souffrance contre les Palestiniens et Palestiniennes là, à une échelle sans précédent. Il faut également comprendre là, que, dans le fond, la souveraineté des États, c'est vraiment ce qui empêche la Cour internationale de justice là, d'avoir une emprise sur les États.
Mais merci, Noémie. Et comme je le disais, la Cour a donc demandé à Israël de rendre d'ici un mois... un dossier par rapport à ces sanctions-là, puis a quand même demandé de suivre les mesures demandées et les mesures impliquées dans cette affaire. Nous verrons alors dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois comment cette situation va évoluer. Donc voilà, merci chers auditeurs, et on se retrouve après une courte page de musique pour une chronique sur la situation en Australie qui sera faite par mon collègue Marc-Antoine.